Mais d'abord, la journaliste, notre journaliste, Annie Guillemette, est en studio. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Donc, qu'est-ce qui se passe là? Les policiers sont tout prêts de peut-être de trouver le véritable suspect?
En fait, on est très avare de commentaires au niveau des confirmations du côté de la police de Montréal. On peut les comprendre parce que là, hier, on s'est retrouvé devant le fait accompli que la personne qui avait été arrêtée n'était pas la bonne. Donc, oui, on a réétudié la preuve. Et là, il y a un communiqué qui a été émis dans la dernière heure. Dans ce communiqué-là, deux choses intéressantes. Selon le directeur de la police, Sylvain Caron, la complexité de cette enquête-là est exceptionnelle. Il faudra voir les détails, pourquoi et comment. Mais surtout, toute dernière ligne du communiqué, à l'heure actuelle, la combinaison de tous les éléments de preuve nous permet d'envisager la présence d'une personne additionnelle sur la scène de l'événement le soir du crime. Bon. Donc, on avait vraiment un suspect qui a été arrêté, M. Camara. On a libéré toutes les accusations. Mais là, il y aura un autre suspect qui serait identifié formellement par la police de Montréal. Donc là, est-ce qu'il y aura une arrestation rapide, pas rapide? Est-ce que cet individu-là est localisé? Tout ça, aucune confirmation officielle, mais on sait de sources sûres qu'il y a quelqu'un qui est formellement identifié. Donc, on a un suspect dans la mire. On va voir comment ça va aller pour la suite des choses. Ça pourrait débouler assez rapidement, Bernard, dans ce genre d'affaires-là. Là, c'est très fréquent que les enquêtes débouchent rapidement. Bien sûr, on va faire les choses différemment parce qu'on a le droit de se tromper.
Oui, justement. On n'a plus le droit de se tromper.
C'est toujours la police de Montréal, d'ailleurs, qui mène l'enquête dans ce dossier-là. Et de plus en plus, on entend des questions. Pourquoi la police de Montréal se penche sur un événement qui implique un de ses policiers? On va voir là, si la finalité de l'enquête, ça va toujours être dans les mains du SPVM. D'accord. Il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. Et donc, pour l'instant, pas de commentaire officiel de la police. Un simple communiqué.
Pas de commentaire non plus du DPCP. On a essayé, nous autres, là.
Non.
Pas de commentaire du DPCP.
Mais il y a la mairesse de Montréal,
oui,
qui a convoqué un point de presse à l'extérieur de l'hôtel de ville, là, comme on dit, un scrum, une mêlée de presse impromptue. Ça va se passer dans la prochaine heure. Donc, bien sûr, je serai là.
Oui.
On va voir si on a de nouveaux détails. Bien sûr, on va suivre cette affaire. On rappelle hier, là, M. Camara qui a été libéré de 4 accusations. Il est sorti du palais de justice en homme libre.
Et soulagé.
Et soulagé, oui.
Mon Dieu,
sa conjointe au bras. Il est donc rentré hier soir après une semaine en détention.
Annie Guillemette, merci.
Au revoir.
OK, on va aller rejoindre l'avocate de M. Mamadi Farah Camara, Maître Joannie Chesnay. Bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, réaction là au tout dernier développement.
Ben, en fait, c'est pas nécessairement une surprise, en ce sens que les faits tendaient à s'aligner vers ça, donc on n'est pas très surpris. On espère évidemment que l'enquête va bien se poursuivre et qu'il y aura identification éventuelle de quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui est surprenant à ce stade.
Comment vous vous expliquez, là, avec les quelques heures de recul que vous avez, ce qui s'est passé? L'erreur, à votre avis, qui l'a commise? Qu'est-ce qui s'est passé, maître?
Ben, je peux évidemment pas me prononcer sur ça. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a encore des questions qu'on peut se poser et il faut se les poser. Moi, avec du recul, ce que j'en déduis, c'est qu'on a peut-être rapidement oublié la présomption d'innocence. On a un peu fait le procès de M. Camara un peu trop rapidement, autant dans l'information qui était circulée, véhiculée. On parlait, il faut se le rappeler, au départ d'une preuve qui était circonstancielle lorsqu'il a été, lorsqu'il a comparu détenu. Certains éléments de preuve se sont ajoutés, mais au final, lorsqu'on regardait encore l'ensemble de cette preuve-là, il y avait une grande problématique au niveau de l'identification. Et c'est ce qui a mené à la décision qui s'imposait en l'espèce là, de libérer M. Camara hier.
OK. Oui, on s'entend que le problème, c'est vraiment l'identification. Alors, il va falloir voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire, maître, là, puis je comprends que c'est pas toujours évident de commenter ces choses-là, là, mais je suis étonné quand je lis notamment là, le reportage des trois journalistes, Ouellet, Vézina, Renaud et Perron aujourd'hui, là. Comment ça se fait qu'on a obtenu les bandes vidéo le premier jour, le jour de l'incident, donc le jour où de l'agression, je devrais dire, donc le jour où le policier se fait malmener, et c'est seulement 6 jours plus tard qu'on aurait revisionné les mêmes bandes vidéo et qu'on aurait aperçu donc un troisième suspect, là, ou enfin la présence d'une troisième personne? Ce délai de 6 jours, pour moi, est incompréhensible.
Mais il faut faire très attention à ça, en fait. Là, ce qu'il faut comprendre, et je n'ai pas l'information à savoir exactement quand est-ce que la vidéo était disponible. Ce que je peux par contre confirmer, c'est qu'au niveau de nous en défense, la vidéo, nous l'avons obtenue mercredi matin. En vertu des obligations de communication de la preuve de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales, toute preuve doit être divulguée à la défense dès le moment où elle est disponible. Et nous, on a obtenu cette preuve-là mercredi. Alors, je peux pas vous dire que la preuve, elle était disponible avant. J'irai pas là parce que nous, on l'a reçue mercredi. Et si on applique le principe de divulgation de la preuve, on l'a reçue dès qu'elle était disponible. Donc, j'entends ces mots-là revisionner, réanalyser. Il n'y a pas de confirmation que cette preuve-là avait été disponible avant. Là, moi, je peux vous confirmer que la preuve, on a appris la nature et l'existence de cette preuve mercredi matin. Et dès qu'on l'a appris, on nous l'a divulgué. Et c'est ce qui a amené la suspension du dossier qui devait être traité le matin. Il a été suspendu en après-midi. Donc, faites faire attention au niveau de réexamen, réévaluation. Il n'y a pas de personne qui peut confirmer que la preuve était disponible avant. Moi, je vous confirme qu'on l'a reçue mercredi.
Mais mercredi, mercredi, c'est hier, ça.
Exact. Mais qui peut affirmer que les policiers ou les procureurs avaient cette preuve-là avant? C'est juste là où je veux faire... Il faut faire attention à ce qu'on entend. Ben, moi, je dis qu'on l'a reçu mercredi et rapidement, ça a été suspendu pour que tout le monde puisse procéder à l'écoute de cette preuve-là.
Donc, vous l'avez visionné, la vidéo?
Absolument.
Et est-ce que vous avez remarqué la présence de ce troisième véhicule sur la vidéo?
Je n'irai pas dans les détails de la preuve en question parce que vous le savez et c'est très connu. L'enquête, elle est toujours en cours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle d'images de caméras de surveillance, donc d'images captées de très loin au niveau de la qualité de tout ça. Il y a certaines là, complexités. Je ne peux pas vous dire que moi, j'ai vu quoi que ce soit de béton, mais clairement, il ressortait quelque chose de cette preuve-là que lorsqu'on ajoutait à la preuve déjà existante, a amené le DPCP à prendre la décision qui a été prise.
Et la preuve déjà existante, vous faites référence à quoi, là?
On parle de preuves matérielles, de preuves circonstancielles, déclarations de témoins, observations policières. C'est vraiment l'ensemble de tout ça dans lequel il ressortait une problématique au niveau de l'identification. La vidéo s'est ajoutée à ce qu'il y avait déjà et a confirmé qu'il y avait cette problématique-là.
Est-ce que vous demandez des excuses?
Je n'irai pas jusque-là. Je demande à ce qu'on se pose des questions. S'il y a enquête à y avoir publique, enquête, il y aura. Je pense qu'on peut se poser des questions. Est-ce que l'enquête a été faite trop vite? Est-ce qu'on a procédé trop rapidement? Est-ce qu'on aurait dû attendre la divulgation complète de la preuve avant de procéder à l'arrestation et à la détention de quelqu'un? Ce sont toutes des questions pertinentes qu'on doit se poser aujourd'hui.
Bon, moi, je suis pas juriste, Maître Chéné. Là, je suis un simple citoyen. Je suis absolument... Écoute, je me mets à la place de cet homme-là, ce qu'il a vécu là, et ce qu'il a risqué là aussi. Là, il a risqué des nombreuses années de prison là, si jamais il avait été condamné. Là. Et moi, je souhaiterais qu'on s'excuse. Je souhaiterais que la police me dise « on s'excuse », que le DPCP me dise « écoutez, on s'excuse ». J'ai le droit comme citoyen d'avoir cette réaction-là, je pense. Hein, c'est raisonnable, c'est légitime.
Je pense que c'est raisonnable, mais j'irai encore au-delà de ça. Je penserai à toute l'information qui a été véhiculée dans les médias, tout ce qui s'est dit sur cet homme-là dès le moment où il a été arrêté et alors qu'il était censé être encore présumé innocent. Il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées et j'espère que ça va amener une réflexion à ce niveau-là, au niveau de l'importance de se rappeler de la présomption d'innocence. Cet homme-là a subi un procès, disons-le, sur la place publique alors qu'il était présumé innocent et aujourd'hui, il y a tout ça. Il n'y a pas seulement sa libération et se remettre de ses émotions, il y a de faire face à tout ce qui a été dit sur lui au moment des procédures judiciaires.
Maître Joanie Chéné, donc, qui a été l'une des deux avocates. Enfin, il y avait un avocat, il y avait vous comme avocate, donc de Mamadi Farah Camara. Merci beaucoup.
Merci, ça me fait plaisir.
On va aller rejoindre maintenant un ancien procureur de la Couronne, ancien porte-parole du DPCP. Il est maintenant avocat chez Boucher, cabinet d'avocats. Maître René Verrette, bonjour.
Bonjour.
Maître Verrette, est-ce qu'il doit y avoir des excuses qui doivent être présentées soit par la police, soit par le DPCP, soit par les deux?
Moi, je pense que la première chose, c'est qu'il doit y avoir une enquête complète par rapport à tout ce qui a été fait dans cette affaire-là. Il faut savoir, c'est important, c'est un peu de le rappeler, que le DPCP a des directives. Il y en a une qui est très importante, qu'il faut lire et relire, c'est la directive A6C3. Et il y a une chose importante là-dedans qui est dite au paragraphe 5, et je le lis. Avant de procéder à l'autorisation d'une poursuite, le procureur doit s'assurer que le dossier d'enquête est complet. Alors ça, c'est très important à considérer. Donc, avant d'accuser quelqu'un, il faut que le procureur s'assure que son dossier est complet. L'autre élément qui est important...
Donc, le dossier n'était pas complet à vos yeux?
Ben, hein? Là, je le sais pas, je le connais pas, M. Drainville. Pour moi, je peux pas dire qu'il était complet ou pas.
Ben, là,
normalement...
Maître Verret, en tout respect là, pour vos nombreuses années, là, je conçois pas, moi, là qu'on réalise après 6 jours de détention... que finalement, on a mal compris ce qu'il y avait sur la bande vidéo et finalement, on décide de le libérer. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là.
Vous avez raison. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que l'autre élément qu'il faut considérer, c'est que normalement, avant d'autoriser une poursuite, et la directive le dit aussi clairement, le procureur doit être convaincu sur le fondement de la preuve qu'il a, de son analyse objective, qu'un juge ou un jury pourrait le trouver coupable. Alors, c'était quoi la preuve que la poursuite avait lorsqu'ils ont décidé de l'accuser? C'est ça, à mon avis, qu'on devra évaluer, qu'on devra considérer.
Quand vous parlez d'enquête, là, on parle d'une enquête indépendante, donc, hein? Est-ce que vous parlez d'une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes, du BEI? Est-ce que vous parlez d'une enquête publique? De quel type d'enquête on parle, là, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé?
Ben là, je ne le sais pas. J'ai lu ce matin, avant de vous parler, qu'effectivement, le gouvernement du Québec envisage la tenue d'une enquête. De quelle forme elle va être, ça, je ne le sais pas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On envisage la tenue d'une enquête.
Oui. Vous, avec votre expérience, là, puis sans présumer de ce qui s'est produit, mettons les 2 ou 3 scénarios qui vous semblent les plus vraisemblables, qui pourraient expliquer cette erreur sur la personne et cette erreur au niveau de la détention, cette erreur quant aux accusations portées. Qu'est-ce qui expliquerait, à votre avis, l'erreur?
Ben écoutez, c'est difficile de le dire. Si on ne connaît pas le dossier que la couronne avait à l'origine, mais c'est clair qu'il y a un élément de preuve qui était disponible et qui n'a pas été soumis, d'après ce qu'on comprend, à la couronne dans un premier temps. Alors, pourquoi ça n'a pas été soumis? C'est une des questions qu'on devrait se poser.
Vous voulez dire la police n'aurait pas soumis au DPCP certains éléments de preuve?
Ben, je ne le sais pas, M. Drainville. Moi, là, vous me parlez d'un dossier que je ne connais pas. Moi, je lis les comptes rendus médiatiques, mais ce que je comprends, c'est qu'un élément de preuve supplémentaire, ce vidéo-là, qui a été remis à la défense mercredi. C'est ce que j'ai compris.
Oui, oui.
Alors, est-ce que la poursuite l'avait, ce vidéo-là, en tout premier lieu, lorsqu'ils l'ont accusé? Ça, je ne le sais pas.
OK, mais Maître Chesnay avait raison de dire, si le DPCP avait en sa possession cette vidéo-là, il se devait de la remettre à la défense dès qu'il l'obtenait.
Vous avez raison. Alors, quand il était accusé, cet homme-là, est-ce qu'on a remis cette divulgation-là? Je présume que non, parce qu'effectivement, elle vient de vous dire qu'elle l'a obtenue hier seulement. Donc, effectivement, si la couronne l'avait, elle ne l'a pas divulguée à partir de la comparution. Mais alors, on ne sait pas. Il y a beaucoup de questions, M. Drainville.
C'est très troublant. C'est très troublant. Parce que si, effectivement, c'est sur la base de cette vidéo qu'on l'a libéré, dire, elle arrivait de où, cette vidéo-là? Puis ça faisait depuis combien de temps que les policiers l'avaient? Puis s'ils l'avaient, ne l'ont-ils pas remis au DPCP?
Ce sont des questions qu'on devra poser, effectivement, qui sont très pertinentes.
Maître René Verret, maintenant avocat chez Boucher, cabinet d'avocats, ancien procureur, ancien porte-parole du DPCP. Merci.
Merci, au revoir.
Luc Lavoie.
Écoute, Bernard, quand j'ai entendu cette nouvelle-là hier, j'étais abasourdi. Je me suis dit, mais ça arrive aux États-Unis, pas ici, les affaires comme ça. Parce qu'il faut bien l'admettre, Bernard, on n'ose pas le dire, là. Mais tout le monde a eu le même réflexe quand on a vu ça, bien sûr, le gars est noir. C'est vrai qu'on a eu ce réflexe.
Ben
je suis convaincu que tu l'as eu
ben
aussi.
Oui, mais c'est sûr.
Ben là, mais tu sais, c'est grave, mais ça n'a pas de bon sens. On parle pas d'une erreur judiciaire, on parle d'une bavure incroyable. J'écoutais hier Jean-Claude Hébert, un des criminalistes les plus respectés au Québec, qui disait « J'ai jamais vu ça de toutes mes années de pratique, puis il en a vu de toutes les sortes. » Et il faisait valoir un point, je pense qu'on devrait jeter un coup d'œil de ce côté-là. Il y a eu un interrogatoire qui a duré une couple d'heures au poste de police. Mm-hmm. C'est enregistré, ça existe sur caméra. On aimerait donc voir ça. J'aimerais connaître le ton des questions. J'aimerais connaître la nature des questions. J'aimerais connaître les réponses. Parce que moi, je suis resté marqué par cette image de M. Camara qui quittait le tribunal avec son épouse, sa jeune épouse, qui va bientôt donner naissance à des jumeaux, les premiers enfants du couple. C'est un homme parfaitement intégré à la société québécoise, qui est en train de compléter un doctorat tout en faisant de l'enseignement à la Polytechnique. Écoute, ça prend une enquête publique, puis pas une patente qui va commencer dans 2 ans, ou un BEI qui va taponner comme il taponne dans les affaires de l'UPAC. Ça prend une enquête publique vite. Imagine si t'es noir, comment tu te sens, Bernard? Comment tu te sens si t'es noir présentement? Écoute, as-tu peur ou t'as pas peur? C'est incroyable, cette histoire-là.
Écoute, puis il est pas assez proche, là.
À l'échelle du Québec, oui, à l'échelle du Québec, là, hein, il n'y a pas de mort. Alors, il y a une différence, là. Mais c'est notre George Floyd. Je dis, c'est quoi, ça? Puis, ça m'a rappelé une anecdote, Bernard, je te l'ai dit très rapidement. Un jour, j'avais mangé sur la rue Jean Talon, à un restaurant qui s'appelle La Sirène de la Mer, et quand je partais pour m'en aller vers le centre-ville, j'ai pris Jean Talon en direction est, et quand je suis arrivé un peu dans le coin Parc Extension, il y avait un nid de poule, j'ai défoncé mon pneu, il y avait une crevaison, il était 9h30 le soir, j'avais pas envie, il pleuvait, c'était le printemps, j'ai juste rangé la voiture là où il y avait un stationnement, j'ai fait venir un taxi, je me suis dit, je vais m'en occuper demain matin. Le lendemain matin, je reviens sur les lieux avec une remorqueuse qui venait me rejoindre, et puis qu'est-ce qu'il y avait là? Un policier qui s'avance vers moi, puis il me dit, c'est à vous ça, cette voiture-là? J'ai dit, oui, mais c'est quoi le problème? Ben, il dit, d'habitude, quand on voit une Mercedes, parce que c'était ça que j'avais à l'époque, une rutilante Mercedes, stationnée comme ça, on a l'impression que c'est pas la même couleur de la peau que vous avez. Je m'en souviens comme si c'était hier, ça m'est revenu hier, je me suis dit, parc extension, police. Puis le policier qui m'avait dit ça, il riait, là, c'était, ça se voulait une blague. Mais je trouvais pas ça drôle, puis là, je viens de voir, là, ça vient d'arriver là, dans ce quartier-là. C'est épouvantable.
OK. Alors, Luc, regarde, je souscris à tout ce que tu as dit. Là, je vous le rappelle, un nouveau véhicule suspect et un suspect auraient été identifiés. On va vous tenir au courant de ce qui se passe dans les prochaines heures. On se reparle un peu plus tard, Luc.
OK.
On s'en va à la pause. Au retour, vous allez entendre cette extraordinaire enseignante. Vraiment, là, écoutez ça.